Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Maxime Sauvage, premier adjoint au maire du 20e arrondissement de Paris, chargé de la politique de la ville, secrétaire national du Parti Socialiste en charge de la jeunesse et des sports. Bonsoir.
Bonsoir.
Maxime Sauvage, pour commencer cette émission, j'aimerais vous interroger d'abord sur le décès de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Évidemment, ce n'est pas le président de votre génération, mais qu'est-ce qui vous paraît le plus important à retenir de son septennat entre 1974 et 1981 ?
C'est toujours un moment particulier que la mort d'un président de la République. Effectivement, c'est pas le président de ma génération, puisque je suis né en 1988, donc bien après son départ de l'Élysée. Donc pour moi, Valéry Giscard d'Estaing, c'est plutôt des choses que l'on m'a racontées ou que j'ai lues dans les livres. Valéry Giscard d'Estaing, c'est une personnalité politique qui a fait commencer sa carrière politique sous le général de Gaulle et qui est devenu président de la République et qui a quand même modernisé le pays dans cette fin de période qu'on appelle les 30 Glorieuses. C'est une modernisation qui est passée notamment par l'abaissement de la majorité à 18 ans, permettant aux personnes de voter à 18 ans et non plus à 21 ans. C'est la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. C'est également la loi qui a un peu libéralisé la presse et les médias. Voilà, c'est toute cette modernité dans un contexte où, je le disais, nous quittions la fin des 30 Glorieuses et la situation économique mondiale, européenne et française se dégradait. Voilà, c'est une période d'entre-deux pour moi, le septennat de Valéry Giscard d'Estaing.
Alors, on va parler de l'actualité. Ces derniers jours, la gauche s'est beaucoup mobilisée contre la loi sécurité globale. La majorité a finalement décidé de reculer. C'est seulement l'article 24 qu'il faut retirer, ou bien c'est l'ensemble de la loi qui est mauvaise, selon vous ?
Je vais vous répondre en tant qu'élu parisien, vous comprendrez pourquoi. Il y a un article qui, je pense, est important dans cette proposition de loi. C'est l'article 4 qui permet à Paris de pouvoir créer enfin une police publique, puisque c'est la dernière commune de France qui n'a pas la possibilité de le faire. Si j'enlève cet article 4, en revanche, je pense que tous les autres articles n'ont pas leur place dans notre droit, et je pense en particulier à l'article 24 qui pose très très graves questions, et on voit que finalement la majorité, le gouvernement et même le président de la République s'en sont enfin rendus compte, parce qu'il y a des discussions pour voir comment le réécrire. Alors on est parti d'une commission indépendante, maintenant c'est des groupes majoritaires à l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, c'est au Sénat aujourd'hui de travailler sur ce texte, et j'imagine que le Sénat va fortement retravailler cet article. Il y a également l'article 22, j'oublie un peu, mais c'est qui permet les surveillances et le maintien de l'ordre par les drones. Voilà, les socialistes considèrent aujourd'hui que cet article est très très mal encadré, notamment pour le respect de la vie privée, parce que où peut aller le drone dans cette surveillance ? Est-ce qu'il peut aller jusqu'au-dessus des clôtures, voir ce qui se passe dans les jardins, dans les domiciles ? Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce texte, et ça ne se résume pas à l'article 24.
Maxime Sauvage, l'actualité de ces derniers jours a été marquée aussi par l'agression de Michel Zecler, un producteur de musique, par des policiers. Les images de ces violences ont choqué. Est-ce que la police est structurellement raciste, selon vous, ou bien il s'agit de brebis galeuses, simplement ?
Bon, déjà dire que ces images étaient insoutenables à regarder. Je ne pense pas que la police soit structurellement raciste. En revanche, il y a un problème structurel. C'est difficile de parler de brebis galeuses quand on a des images, il y a autant de policiers autour de ceux qui agressent Michel Zecler. C'est pour ça qu'il est indispensable. Il est indispensable de faire un travail de formation, de faire un travail au sein de la hiérarchie de la police pour que ces actions ne puissent plus jamais avoir lieu. Je veux dire, c'est quand même terrible d'entendre un homme qui se fait agresser par des policiers et qui appelle au secours, qui appelle la police. Ça montre bien un peu toute cette situation ubuesque dans laquelle on est. Et il est temps de vraiment réformer la police de l'intérieur pour permettre aux policiers d'avoir la formation, d'avoir un encadrement qui leur permet d'effectuer leur mission de maintien de l'ordre dans les meilleures conditions possibles et surtout en respectant les personnes qu'ils sont censés protéger.
Maxime Sauvage, de manière générale, est-ce qu'il faut revoir aussi la question des contrôles d'identité ? C'est un sujet qui avait été évoqué avant l'élection présidentielle de 2012. Certains jeunes subissent des contrôles au faciès et se font contrôler plusieurs fois dans une seule journée.
Oui, moi je vais vous le dire très honnêtement, c'est une réalité. aujourd'hui c'est contrôle au faciès et ça contribue à dégrader la relation entre les policiers et les citoyens. C'est pour ça que moi je suis convaincu qu'il faut mettre en place des récépissés, voilà, pour limiter ces pratiques qui franchement ne sont plus acceptables.
Alors aujourd'hui, la classe politique reconnaît que les jeunes payent un prix très fort dans cette crise sanitaire, notamment les étudiants qui se retrouvent dans une grande précarité puisqu'ils ne peuvent pas travailler. Le gouvernement promet une solution pour chaque jeune. Est-ce que les résultats sont là sur le terrain? Vous devez le voir, j'imagine, dans le 20e arrondissement. Est-ce que cette aide est suffisante?
Non, cette aide n'est pas suffisante. Et vraiment, sur cette question, on a vu effectivement que la crise sanitaire s'est retournée économique et sociale. C'est dramatique pour les jeunes, pour les étudiants. Beaucoup d'étudiants sont obligés d'arrêter leurs études pour pouvoir continuer à se nourrir ou se loger. Beaucoup de jeunes qui ne sont plus en études ont perdu leur travail, on n'arrive pas à s'insérer sur le marché du travail. Ce qu'il faut avoir en tête quand même sur ce sujet-là, c'est que c'est un phénomène ancien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'Observatoire des inégalités a rendu un rapport qui montre qu'entre 2002 et 2018, les 18-29 ans ont vu leur taux de pauvreté augmenter de 50%. C'est énorme. Donc on voit bien que la précarisation des jeunes, c'est un phénomène qui est quand même ancien, qui n'est pas seulement lié à la crise. Et là, la crise aggrave encore plus les choses et impose de prendre des mesures radicales. Alors le président de la République et sa majorité ont présenté un plan, un jeune, une solution, mais quand on regarde dans le détail, en fait, c'est du saupoudrage de crédit par de très nombreux dispositifs sans forcément mettre des priorités là où il y en a le plus besoin. Donc moi, je pense que c'est des rustines qui ont été votées. En plus, la plupart du temps, elles sont temporaires, alors qu'il faut des mesures structurelles. Donc c'est très, très insuffisant et il y a urgence. Le président de la République disait qu'il est dur d'avoir 20 ans en 2020. Je ne suis pas sûr qu'il a pris la mesure réelle de la situation.
Malgré les repas à 1 euro dans les cantines universitaires, les aides pour les étudiants boursiers, il y a un aspect qui n'est peut-être pas assez pris en compte, c'est la solitude de nombreux étudiants. Ils doivent vivre dans des chambres de 9 mètres carrés loin de leur famille, notamment les étudiants étrangers. Pour les premières années, étudier en distanciel pendant des mois, cela peut créer aussi des risques psychologiques désastreux. Comment accompagner ces étudiants dans ces moments difficiles ?
Oui, c'est vrai que la période généralement d'études, c'est une période de socialisation importante. On sait par exemple sur les facs, sur les campus, l'importance que c'est de rencontrer des gens d'horizons différents, de pays différents, de villes différentes. Là, on perd tout ça et aujourd'hui, on a des retours de psychologues et psychiatres qui montrent qu'il y a une détresse psychologique de plus en plus importante au sein de la jeunesse parce qu'il y a du travail en distanciel, parce qu'on est obligé des fois de revenir chez ses parents alors que ça ne se passe pas toujours très bien, parce qu'on vit dans une petite du Crous, effectivement, et qui est un peu lugubre. Il est compliqué de demander d'organiser des réunions collectives entre les jeunes parce que aujourd'hui le distanciel est toujours la règle imposée dans certaines universités. C'est peut-être plus par des associations qui mettent en lien des étudiants, chacun derrière leur écran aujourd'hui, parce que les restrictions sanitaires ne sont pas levées pour créer un peu de vie collective malgré le fait qu'on est tous souvent dans son appartement. C'est vraiment un peu un système D pour l'instant, et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à une ouverture dans un contexte sanitaire encadré, les universités, enfin tous les lieux d'études, parce que ce sera le meilleur moyen de lutter contre cet isolement des jeunes qui est dramatique.
Maxime Sauvage, un mot de la commission d'enquête sur le Covid-19 à l'Assemblée nationale. Les députés ont pointé des défaillances au sommet de l'État. Quelles leçons faut-il tirer à l'avenir sur la gestion de cette crise depuis le début du mois de mars? On imagine qu'il y aura d'autres crises du même type dans les années qui viennent. Quelles erreurs faudra-t-il éviter de reproduire?
Bon, alors, effectivement, Éric Ciotti a présenté son rapport hier à l'Assemblée nationale, mais il l'a présenté de manière, publique. Il n'est pas encore public, le rapport. Donc, on a seulement des échos de députés qui étaient dans cette commission sur le contenu du rapport. Ce qu'on voit, c'est effectivement, ce qui ressortirait de ce rapport, c'est que la France a complètement perdu son habitude de se préparer aux pandémies. Nous étions prêts, au début des années 2000, à faire face à des pandémies de tous jours. Aujourd'hui, nous sommes plus prêts. Il y a eu aussi une énorme défaillance sur le stock de masques, une défaillance qui n'a pas été rattrapée au début de ce quinquennat, puisqu'entre 2017 et 2020, les stocks de masques se sont effondrés. Il y a une problématique aussi liée à notre souveraineté, en fait, c'est-à-dire notre capacité à avoir accès à des médicaments facilement, à pouvoir produire des masques. C'est tout un ensemble de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, nous n'étions plus prêts. En tout cas, au printemps dernier, les médecins de ville. C'est tout un ensemble de choses, en fait, qu'on a perdu, un savoir-faire. Il faut le reconstituer.
Il y a eu aussi un manque d'anticipation, des problèmes aussi dans la communication, puisque parfois on a eu du mal à se projeter sur le long terme, même si on comprend que les décisions se prennent en fonction de l'évolution de l'épidémie.
Oui, manque d'anticipation, et là je crois qu'après ce sera plus aux parlementaires, mais à la justice de voir qui est responsable de ce manque d'anticipation. Mais je suis d'accord avec vous. Il faut vraiment tirer des leçons de ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui la France arrive à 50 000 morts. On a aussi du coup arrêté l'économie à deux reprises, enfin en tout cas une première fois au printemps. On voit qu'on est un des pays européens où le choc économique est le plus important. On a parlé de la situation des jeunes, il y a des répercussions sociales qui vont être très profondes et qui vont avoir des impacts pendant très longtemps. Donc anticiper, prévenir les pandémies, c'est permettre aussi à un pays de rebondir plus vite une fois que la crise est passée.
Maxime Sauvage, vous êtes premier adjoint du maire du 20e arrondissement de Paris, Éric Pliez, depuis les dernières élections municipales. Quels sont les objectifs prioritaires des élus du 20e arrondissement dans ce contexte si préoccupant? Votre arrondissement est un arrondissement populaire avec parfois des habitants qui vivent dans la grande précarité.
Oui, tout à fait. Le 20e arrondissement, c'est 200 000 habitants. C'est le deuxième arrondissement le plus peuplé de Paris. Avec beaucoup de quartiers populaires, c'est ce qui fait aussi notre richesse dans le 20e. On sait très bien que dans les quartiers populaires, il y a pu avoir des cas de Covid plus importants, puisque les logements sont plus petits, parce que souvent c'est des personnes qui occupent des emplois en première ligne. On sait aussi qu'il y a un fort renoncement aux soins chez les personnes modestes. Donc c'est pour ça que dans le 20e arrondissement, on a vraiment le souci, en lien avec la ville de Paris, d'apporter un soutien aux habitants. C'est trois axes, nous, dans le 20e arrondissement. C'est on vient d'ouvrir un centre Covid au sein de la mairie pour faciliter les tests, notamment pour la destination des personnes les plus précaires, et ensuite les accompagner une fois que les résultats du test sont connus, notamment si le test est positif, pour leur isolement. C'est de coordonner l'action alimentaire, l'aide alimentaire, parce qu'il y a une forte précarité alimentaire dans le 20e, en particulier en période de crise. Et donc, il y a de formidables associations collectives qui sont montées lors du premier confinement, qui se sont remontées lors du deuxième confinement. Voilà, l'idée maintenant, c'est de les coordonner pour qu'ils puissent agir là où on en a le plus besoin, là où les habitants ont le plus besoin d'aide alimentaire. Et enfin, c'est un soutien aux commerçants et à toutes les associations. Soutien aux commerçants, parce que la plupart ont dû fermer lors du premier et du deuxième confinement. Et aux associations qui font un travail formidable dans le 20e, c'est le soutien à la parentalité, c'est l'aide aux devoirs, et on sait les conséquences du confinement sur le décrochage scolaire. Voilà, c'est tout ça pour permettre aux habitants du 20e de traverser cette crise avec le plus de soutien public et associatif possible.
Maxime Sauvage, le 9 décembre, le gouvernement va présenter sa loi contre le séparatisme. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait ordonner le contrôle de 76 mosquées. Est-ce que vous approuvez le gouvernement quand il affirme sa volonté de faire respecter davantage les principes républicains ?
Bon, alors, effectivement, ce nouveau projet de loi qui s'annonce aujourd'hui, il y a un avant-projet de loi qui circule. Il semblerait que le gouvernement reculerait la présentation de ce projet de loi sur le séparatisme. Je pense que c'est un projet de loi qui est très incomplet. Il n'existe pas un séparatisme en France, il y a plusieurs séparatismes. Il y a un séparatisme religieux, c'est très clair, il faut le combattre, mais il y a aussi des séparatismes sociaux. Il y a des causes aussi qui expliquent que ces séparatismes qu'il faut combattre, c'est tout un ensemble de choses en fait. Et le projet de loi du gouvernement se focalise que sur un tout petit sujet qui est très important, mais la réponse qui est apportée est insuffisante. Il faut lutter contre les séparatismes, et je parlerai des séparatismes au pluriel, c'est aussi permettre, apporter de la mixité sociale partout dans le pays. Aujourd'hui, on en manque de la mixité sociale dans certains quartiers. Il y a des ghettos de riches, il y a des ghettos de pauvres. C'est inacceptable, il faut combattre ces séparatismes. Donc, c'est pour ça que on fait un travail montrer, nous, nos propositions, c'est à la fois combattre les séparatismes, mais aussi l'origine de ces séparatismes. Et c'est avoir des réponses qui ne sont pas uniquement répressives, c'est aussi agir en matière culturelle, en matière d'éducation, en matière de mixité sociale. C'est une réponse d'ensemble, c'est presque un projet de société.
Alors, il y a quelques jours, le secrétariat national du PS a été refondu. Vous êtes ainsi devenu secrétaire national à la jeunesse et au sport. Le PS a subi la pire défaite de son histoire en 2017. Un congrès est prévu pour l'année prochaine. Quel sera le rôle du PS dans les 18 mois qui viennent pour espérer que la gauche revienne au pouvoir ?
Oui, vous l'avez dit, c'est vrai que l'année 2017 a été pour nous une année très difficile. Je suis convaincu qu'on a des choses à proposer, que le Parti Socialiste, par son histoire, par ses valeurs, par le travail qu'il fait depuis 2017 aussi, pour réfléchir aux raisons qu'il a entraînées dans cette situation, a des choses à proposer aux Françaises et aux Français. L'objectif de ce congrès et de ce qui nous est de la refondation de la direction nationale que vous aviez évoquée, c'est d'arriver avec des propositions pour les Français, et qu'ensuite le choix des Français pour savoir qui pourrait porter les couleurs de la gauche à l'élection présidentielle ne se passe pas forcément sur des personnes, mais d'abord sur des idées. C'est-à-dire qui défend quoi. Le gros problème qu'on a aujourd'hui dans notre vie politique, c'est qu'en fait on parle d'écurie autour de candidats, on parle chez les Verts d'Éric Piolle ou de Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon a présenté sa candidature. Nous, voilà, il y a cette volonté de dire arrivons par les idées dans le débat public, et ensuite on verra qui peut être le candidat, et si possible avoir un candidat qui unira la gauche. Il n'y a que comme ça qu'on pourra éviter ce duel que tout le monde nous annonce et qui serait mortifère entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a beaucoup de gens de gauche dans ce pays, ils se sentent peu ou mal représentés aujourd'hui. On a ce travail à faire, et voilà, c'est l'objectif de cette nouvelle direction nationale au Parti Socialiste. Et de renouveler les équipes. Moi, j'ai 31 ans et je suis fier d'occuper cette responsabilité et d'avoir un vrai travail de fond. Vous parlez du sujet de la jeunesse, c'est un de mes responsabilités. Je pense qu'on a beaucoup de choses à proposer sur le sujet de la jeunesse.
Pour terminer, vous avez parlé de l'union de la gauche. Lors des élections européennes, la gauche a perdu justement parce qu'elle n'était pas unie. Au municipal, l'union s'est souvent révélée payante. À Paris, Anne Hidalgo a une majorité qui regroupe la plupart des sensibilités de gauche, à l'exception de la France insoumise. Même s'il y a des tiraillements en ce moment avec les écologistes, est-ce que cette gauche plurielle à Paris peut servir de modèle pour 2022 ?
Je suis d'accord, et vous l'avez dit justement, c'est vrai qu'on a pu voir au municipal, dans de nombreuses villes, un rassemblement de la gauche, et que généralement il a été payant. Il a très bel exemple à Marseille notamment, et c'est inattendu. Ce qui se passe à Paris est un bon exemple. Aujourd'hui, il y a les socialistes, il y a Génération, il y a les Verts, il y a le Parti communiste, et on voit que vous avez évoqué, il y a des tiraillements, mais mine de rien, il y a un programme qui est très ambitieux de transformation de Paris qui est mis en place depuis le mois de juillet sans accroc. Donc oui, c'est un modèle à reprendre. De toute façon, il faut toujours s'inspirer de ce qui se passe au niveau local pour proposer ensuite des choses au niveau national.
Merci Maxime Sauvage. Je rappelle que vous êtes premier adjoint au maire du 20e arrondissement de Paris, chargé de la politique de la ville. Vous êtes également secrétaire national du Parti Socialiste en charge de la jeunesse et des sports. Bonsoir.